Les appels sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
RFI vous donne donc la parole pour commenter l'actualité. Ce matin, nous continuerons à débattre de la crise au Burkina Faso, d'autant que les prochaines heures seront cruciales. Sur le terrain, des éléments de l'armée nationale sont entrés hier soir à Ouagadougou, dans la capitale, pour obtenir la reddition des putschistes. On sait que des discussions ont commencé cette nuit. En tout cas, ce matin, les militaires loyalistes ont fixé un ultimatum. Les putschistes ont jusqu'à 10h heure de Ouagadougou, midi heure de Paris, pour déposer les armes. Par ailleurs, et c'est important, un sommet extraordinaire doit commencer dans les prochaines heures à Abuja, au Nigeria. Les chefs d'État ouest-africains vont se réunir pour examiner les propositions de sortie de crise de la médiation, des propositions qui suscitent l'indignation de la société civile à Ouagadougou, société civile qui est clairement opposée à l'amnistie des putschistes, à la participation des candidats pro-Compaoré aux prochaines élections. Nous allons donc en parler dans une trentaine de minutes sur notre antenne. Quel doit être le scénario de sortie de crise? Comment privilégier un retour à la transition? Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 et vous continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme tous les matins, c'est votre rendez-vous avec la rédaction des RFI. Ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Et on a reçu plusieurs questions concernant Ama Amadou. Il fait à nouveau parler de lui. Ama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. Bonjour Sadou.
Oui, salut, Juan Gomez.
Bienvenue sur notre antenne. Vous nous appelez d'Accra, vous êtes au Ghana. Quelles sont vos questions?
J'apprécie l'enceinte de RFI que Ama Amadou a été investi au candidat présidentiel du mois de février. Concernant cet sujet, j'ai une seule question. Je voulais savoir les dernières nouvelles du complicité du trafic du bébé.
Oui, l'affaire du trafic du bébé, puisqu'effectivement Ama Amadou est recherché par la justice du Niger pour complicité de trafic de bébé, affaire qui avait défrayé, rappelez-vous, la chronique il y a un an. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ama Amadou a donc été investi candidat par son parti, le Modem. Le problème, c'est que lui et son épouse sont soupçonnés d'avoir acheté leurs deux enfants au Nigeria voisin. J'imagine que l'affaire est toujours en cours.
Et oui, l'affaire est toujours en cours. Ama Amadou et une vingtaine d'autres personnes sont toujours poursuivis, dont les époux Amadou soupçonnés d'avoir illégalement adopté des jumeaux. Mais pour le moment, Juan, l'examen au fond du dossier en fait n'a pas encore débuté.
Pour quelle raison?
L'affaire a pris du retard à cause d'une requête soulevée par la défense qui avait conduit en janvier dernier le tribunal correctionnel de Niamey à se déclarer incompétent. Alors dans la foulée, le parquet avait fait appel et finalement en juillet, la justice a renvoyé l'affaire devant la cour correctionnelle, une sorte de retour à la case départ. Et ce n'est pas fini puisque sur RFI la semaine dernière, Ama Amadou a assuré qu'il se pourvoyait en cassation et pendant ce temps-là, Juan, le fond du dossier n'est toujours pas examiné.
Ça signifie qu'Ama Amadou n'a toujours pas été entendu dans cette affaire?
Et non, et de toutes les personnes inculpées, il est le seul à ne pas avoir répondu aux convocations des juges puisqu'il est toujours en exil, même s'il dit son intention de vouloir rentrer. Tous les autres, dont sa femme, sont en liberté provisoire. Et une chose est sûre, hein, Juan, il faudra probablement encore attendre de longs mois pour qu'une conclusion judiciaire soit donnée à cette affaire.
Oui, Ama Amadou qui disait la semaine dernière au micro des RFI qu'il souhaitait rentrer très très rapidement au Niger. Autre question toujours sur ce dossier. Bonjour Ali.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Alors vous êtes à Dosso au Niger, on vous écoute.
L'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, M. Ama Amadou, a été investi comme candidat de son parti aux élections présidentielles de 2016. Je voudrais savoir si la Cour constitutionnelle peut valider sa candidature.
Ah, ça c'est une bonne question, c'est la question que tout le monde peut se poser, d'autant qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Cette candidature sera-t-elle acceptée, sera-t-elle validée, Florence?
Alors évidemment, on ne peut pas se prononcer à la place de la Cour constitutionnelle, et puis surtout rappeler que pour le moment, vous l'avez dit, il a seulement été investi par son parti. Hein, donc sa candidature n'est pas formellement déposée, le dépôt des candidatures n'est pas encore ouvert, et puis pour que ce dépôt soit effectif, Ama Amadou devra rentrer à Niamey pour fournir notamment un certificat médical nigérien datant de moins de 3 mois, c'est ce que dit la loi.
Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est s'il rentre à Niamey, il y a de fortes chances qu'il soit interpellé.
Alors, il est toujours donc sous le coup d'un mandat d'arrêt émis en septembre dernier. Ses avocats ont tenté en vain de le faire annuler, mais le ministre de l'Intérieur du Niger a été très clair encore la semaine dernière. S'il rentre, il sera arrêté et jugé, ce à quoi Ama Amadou rétorque qu'il est prêt à répondre devant les juges, puisque selon lui, le dossier d'accusation est vide.
Alors, s'il rentre, s'il est poursuivi, est-ce que cela invalide forcément la candidature?
Donc, encore une fois, seule la Cour constitutionnelle peut répondre à cette question. Ce qu'on peut dire tout de même à ce stade, c'est que d'après la loi électorale, tout candidat doit se soumettre à, je cite, une enquête de bonne moralité menée par les autorités compétentes. Une disposition qui, de l'aveu même du procureur adjoint de la République du Niger, est assez floue et constitue donc une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête d'Ama Amadou.
Ah, ce qu'on peut signaler tout de même, pour terminer, Florence Maurice, c'est que certains observateurs pensent que s'il est candidat, il sera malgré tout protégé des poursuites judiciaires.
Alors, certains observateurs, en tout cas, pensent qu'il pourrait se saisir, lui, d'une disposition de la CEDEAO, hein, qui date de 93, selon laquelle, effectivement, des candidats à la présidentielle ne peuvent pas être inquiétés pour des raisons extra-politiques dans les mois qui précèdent le scrutin. Mais évidemment, cet argument n'est pas valable pour les autorités, puisque pour eux, il s'agit d'une affaire qui relève du droit commun et non pas une affaire politique, comme le clame l'ancien président de l'Assemblée nationale.
À suivre, donc. Vous souhaitez commenter cette actualité, on peut en parler, si vous le souhaitez, évidemment, vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Merci beaucoup, Florence Maurice, et on remercie Ali et Sadou qui nous ont appelés sur cette affaire Ama Amadou. 33 9 693 693 70. D'autres questions? On va s'intéresser maintenant aux services de renseignement algériens. Vous l'avez certainement entendu sur notre antenne. Les services secrets ont connu il y a quelques jours une petite révolution. Certains parlent même d'un séisme. Bonjour Abdoul.
Bonjour Monsieur Wan.
Bienvenue, on vous écoute.
Ok, et Monsieur Wan, j'ai appris sur votre antenne la nomination du général Sartag à la tête de la direction des renseignements et de la sécurité en Algérie. Donc, c'est en ce sens que j'aimerais savoir qui est le général Sartag et quel est son parcours professionnel.
Alors, le général Tartak qui remplace donc Toufik Médienne, c'est la fin d'une époque, titré il y a quelques jours le quotidien algérien El Watan. Bonjour Marie-Pierre Alphand.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. Qui est le nouveau patron des renseignements algériens? Est-il aussi mystérieux que le précédent?
Eh bien oui, hein, c'est un homme de l'ombre, comme le général Toufik et comme l'ancien général. On ne connaît pas son image, certains disent même que les seules photos qui circulent de lui sont fausses. Aucune biographie officielle non plus n'a été rendue publique, mais on sait qu'il a été recruté dans les années 70 par la sécurité militaire. Quand il était à l'université, il a ensuite gravi les différents échelons. Le général Tartag a la réputation d'un homme très dur, il est d'ailleurs surnommé le boucher ou encore le bombardier. Sa réputation remonte à l'époque où il dirigeait le centre principal militaire d'investigation dans les années 90, une structure qui avait pour vocation d'enquêter sur les affaires militaires. Il a ensuite été aussi chargé de la lutte contre les islamistes armés. Et Adeline Mehdi, un journaliste algérien qui a écrit un article très détaillé sur le général Tartag, explique d'ailleurs qu'à cette époque, c'était une terreur à la fois pour les islamistes et les militaires aussi corrompus. En 2011, on retrouve le général Tartag au département de renseignement, le fameux DRS créé par le général Toufik en 1990. Il est alors nommé numéro 2 au poste de directeur de la sécurité intérieure. Et c'est à ces fonctions qu'il a géré la prise d'otage du site gazier d'In Amenas en janvier 2013. Il avait choisi de ne pas faire traîner les négociations et d'intervenir de manière musclée, ce qui lui avait ensuite été reproché vivement dans les médias internationaux. Il est ensuite parti à la retraite en 2013, puis il a été nommé conseiller du président Bouteflika, avant qu'on le rappelle tout dernièrement pour remplacer le général Toufik.
Voilà donc pour le parcours de l'énigmatique général Tartag, donc le nouveau chef des services de renseignement algériens. Vous avez une autre question, Abdoul?
Oui, monsieur Wan, ma deuxième question, pourquoi un tel remaniement? Et qu'est-ce qui a motivé la nomination de ce général à la tête de la DRS?
Alors, c'est une bonne question, effectivement, à laquelle de nombreux observateurs chaque observateur a sa propre explication, sa propre analyse. C'est vrai qu'on assiste à un remaniement des services de renseignement, de services secrets depuis quelques mois en Algérie.
Depuis deux ans, certains services du TRS ont tout simplement été dissous et d'autres ont été rattachés à l'état-major des armées, réputé pour sa loyauté au chef de l'État. Alors, effectivement, la question aujourd'hui, et il est difficile difficile d'y répondre, c'est est-ce que le général Toufik, donc qui vient de partir, a été acteur de son départ, de son limogeage, ou est-ce qu'on l'a purement et simplement mise à l'écart pour préparer l'après Bouteflika? C'est vraiment la question qui se pose. Certains assurent qu'il est parti, qu'il a choisi de partir, qu'il a choisi son successeur parce que c'était un homme clé et qu'on peut pas se débarrasser comme cela aussi simplement de lui. Plusieurs observateurs disent qu'il a demandé lui-même à prendre sa retraite, il en a l'âge, à 76 ans, et qu'il a préparé sa succession en faisant le ménage, ou même qu'il a cherché à faire croire à la disparition du DRS, une sorte de manœuvre en quelque sorte de la part d'un général qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Ça, c'est la première hypothèse. Et l'autre, que beaucoup défendent, beaucoup d'experts du système algérien défendent, c'est que le départ du général serait simplement la suite logique d'un différend entre le président Bouteflika et le général Toufik, qui, dit-on, ne s'entendait plus. On avait beaucoup dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la candidature à un quatrième mandat.
Oui, le général Toufik était...
Voilà, qu'il était réticent, contrairement au chef d'état-major de l'armée. Et ben dans ce scénario, le général Toufik paierait tout simplement son positionnement et son limogeage serait une victoire du camp présidentiel sur le tout-puissant DRS. Mais voilà, vous le voyez, il y a ces deux hypothèses qui sont en concurrence. C'est difficile de savoir ce qui se trame. Le système algérien est particulièrement opaque et les renseignements, par nature, peu enclins à raconter ce qui se passe en leur sein.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Olfan. Bonne journée, Abdoul. Vous nous appeliez de Niamey au Niger. Il est 10h21 à Paris, 8h21 à Ouagadougou. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat sur la crise au Burkina Faso. Vous êtes toujours aussi nombreux à souhaiter commenter les événements qui évoluent d'heure en heure, puisque ce matin, les militaires loyalistes ont clairement fixé un ultimatum aux putschistes. Ils ont jusqu'à 10h heure de Ouaga, ce qui signifie donc midi heure de Paris, pour déposer les armes. 33 9 693 693 70. On a évidemment reçu des questions concernant la crise au Burkina Faso. Laura Martel du service Afrique d'RFI s'installe dans ce studio. Bonjour Laura.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Première question, Moussa, bonjour.
Oui, bonjour Val.
Bienvenue.
Et bonjour à tous les fidèles auditeurs d'RFI.
Merci de votre fidélité. Vous êtes au Tchad, nous vous écoutons.
Oui, effectivement. Le rapport des commissions de réconciliation nationale et de réforme publié mardi disait qu'il fallait dissoudre le régime de sécurité présidentielle. Pour quelle raison?
Alors, le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui est à l'origine du coup d'État de la semaine dernière. Laura, ça faisait déjà plusieurs mois que l'avenir de l'ancienne garde présidentielle prétorienne de Blaise Compaoré était en jeu. Faut-il la dissoudre? Faut-il la maintenir? Et effectivement, lundi dernier, soit deux jours avant le coup d'État, eh bien une commission a préconisé la dissolution pure et simple de ce régiment. Pourquoi?
Eh bien, le diagnostic de la commission sur le RSP, il est succinct, mais il est parlant. Le RSP est devenu une armée dans l'armée, c'est ce qu'estime la commission, avec pour elle une première conséquence, un commandement qui, depuis la création du RSP, c'était en 96, n'est pas unifié selon la commission. L'analyse n'est pas poussée plus avant, Rouen, mais la commission recommande donc effectivement de dissoudre, dans le cadre de la refondation de l'armée et de son commandement, le RSP, et de redéployer ses éléments à des missions autres que celle d'assurer la protection du président du Faso.
Ouais, il faut dire que le RSP subit depuis plusieurs mois de nombreuses crises.
Oui, notamment sur le poids disproportionné par rapport au reste de l'armée, de ces 1200, 1300 hommes surentraînés, suréquipés et basés juste à côté du palais présidentiel. Mis en cause depuis plusieurs années dans plusieurs affaires de crimes de sang, le RSP est considéré par la société civile comme le bras armé de l'ancien président Compaoré, tenu responsable toujours par cette société civile de la répression meurtrière de la révolution d'octobre dernier. Et d'ailleurs, la dissolution du RSP reste l'une des premières revendications de cette société civile. Et puis vous le disiez, Juan, au cours de ces derniers mois, plusieurs crises ont opposé le RSP à la transition. En décembre 2014, en février, en juin dernier, le RSP qui demandait notamment le départ du Premier ministre, Isaac Zida, qui pourtant est issu de ses rangs, car le Premier ministre, en fait, s'était d'abord engagé à dissoudre le RSP, mais suite à ces crises, donc, il avait dû faire volte-face et s'est engagé finalement à ce que le RSP soit maintenu, d'où pour le Premier ministre, d'ailleurs, une perte de crédibilité et auprès de la société civile
et du RSP.
Oui, alors certainement que le rapport de la commission publié la semaine dernière a été l'étincelle qui a mené au coup d'État, perpétré donc deux jours plus tard, même si les putschistes avancent d'autres raisons.
Oui, les putschistes ont surtout insisté sur l'exclusion de certains candidats du processus électoral, puisque vous le savez, le nouveau col électoral excluait des élections des politiques proches de Compaoré qui s'étaient prononcées en faveur de la révision constitutionnelle. Et donc, moins d'une semaine avant ce putsch, le Conseil constitutionnel avait invalidé la candidature de deux ministres de Compaoré. Et puis, il faut noter qu'un rapport de International Crisis Group en juin dernier revenait justement sur les faiblesses de la transition et longuement sur, je cite, l'ombre du RSP, les menaces qu'il faisait peser sur les institutions par sa position unique, on l'a dit, mais aussi donc l'exclusion de certains candidats. En gros, le rapport disait, si certains candidats ne peuvent pas s'exprimer dans les urnes, ils pourraient s'exprimer autrement et que la question du RSP donc risquait d'entraîner une déstabilisation du pays dans sa réforme et que c'était d'ailleurs sans doute pour ça que la transition renvoyait le gros de la réforme aux institutions qui auraient été issues des élections d'octobre.
Et on précise que le projet d'accord de sortie de crise des médiateurs ouest-africains renvoie effectivement à plus tard l'avenir du RSP. Je cite, cette question est laissée à l'appréciation du président issu des prochaines élections. On suivra ça évidemment. Autre question, toujours sur le Burkina Faso. Bonjour Kofi.
Oui, bonjour Owen, bonjour à toute votre équipe.
Merci pour eux. Vous êtes au Togo, on vous écoute.
D'accord. Depuis hier, nous suivons les émissions concernant la convergence des forces armées burkinabées vers la capitale Ouagadougou. Sur cela, j'aimerais poser la question de savoir la position des forces armées du Burkina vis-à-vis des putschistes.
Alors, bonne question. C'est vrai que dans un premier temps, Laura Martel, l'armée était restée, on peut le dire, un peu à l'écart. Et depuis hier, tout s'est accéléré.
Oui, alors là, maintenant, c'est désormais le face-à-face. Depuis hier soir, plusieurs unités de l'armée loyales à la transition venues de province sont aux portes de Ouagadougou. Pas d'affrontement signalé pour le moment. Des tractations sont conduites par le chef d'état-major des armées entre les militaires loyalistes d'un côté, les putschistes du RSP de l'autre. Mais ces militaires loyalistes veulent faire déposer donc les armes sans effusion de sang aux putschistes du RSP. Par contre, ils ont durci le ton, vous le disiez, Juan, ce matin, avec cet ultimatum. 10h, temps universel, il faut que les putschistes aient déposé les armes. Vous le disiez aussi, l'armée est restée longtemps silencieuse, mais elle est donc clairement désormais engagée du côté des autorités de transition. Et cela date en fait d'un communiqué publié hier à la mi-journée, publié par plusieurs chefs de corps qui annonçaient que l'ensemble des forces armées convergeaient donc vers Ouagadougou avec cet objectif de désarmer le RSP. Les officiers ont demandé aux putschistes d'aller dans un camp en fait qui est à l'ouest de la capitale. Ils leur ont garanti la sécurité à eux, à leur famille. Et des troupes sont donc venues de toute la province, de Bobo-Dioulasso, de Kaya au nord, de Faden-Gourma à l'est, ou encore le commando parachutiste de Dégdougou à l'ouest. Et sur leur passage, il faut noter que les soldats ont été salués en héros par la population. C'est ce que rapportent les envoyés spéciaux.
Effectivement, on a pu entendre ce matin le reportage de Frédéric Garat. Cette intervention, Laura Martel, de l'armée loyaliste, est finalement un tournant.
Oui, parce qu'en fait, l'armée jusque-là était restée vraiment sur la réserve. L'irruption du RSP au Conseil des ministres a eu lieu le 16 septembre. Et il faudra attendre 3 jours pour entendre la voix des forces armées nationales au travers d'un communiqué du chef d'état-major général des armées, le général Zagré, qui en fait ne prenait pas vraiment position sur le coup d'État. Il ne condamnait pas ni n'encourageait ce coup d'État. Il ne faisait aucune allusion au général Diendéré, le chef des putschistes. Mais en revanche, il y avait déjà une petite connotation puisqu'il réaffirmait l'attachement aux valeurs républicaines de l'armée et rappeler aussi à tous ces soldats que la première mission était de garantir la sécurité des populations.
On va suivre ça évidemment tout au long de la matinée avec vous, avec nos envoyés spéciaux. Merci beaucoup Laura Martel. Le débat dans moins de 10 minutes maintenant sera consacré à la crise au Burkina Faso. De nombreuses réactions au standard sur les réseaux sociaux. Par exemple, Bourayma nous dit « Rien de bon ne peut sortir du sommet de la CEDEAO, c'est pourquoi l'armée régulière veut aider son peuple. La solution du problème Burkina passe d'abord par la neutralisation du RSP, donc le régiment de sécurité présidentielle à l'origine du coup d'État de la semaine dernière au Burkina Faso. 33 9 693 693 70, notre page officielle Facebook RFI Appel sur l'actualité et notre compte Twitter @appelsurlactu. Vous le voyez, vous avez tous les moyens à votre disposition pour prendre la parole en direct sur RFI. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.